La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. À 700 ans de distance, nous continuons à lire la Divine Comédie de Dante avec les mêmes sentiments de félicité et en même temps d'horreur. On y croise des pères qui voient leurs enfants mourir de faim sous leurs yeux, ou des amants séparés, forcés d'errer dans les enfers sans jamais pouvoir se toucher. Mais on y trouve aussi des visions sublimes du paradis, où l'amour et l'amitié permettent d'atteindre la félicité. C'est donc par toutes ces émotions que le poète nous fait passer, ce qui explique sans doute que son œuvre ait traversé à ce point les siècles. Dante est célèbre pour la Divine Comédie, mais il a également écrit d'autres ouvrages comme la Vita Nova, le Convivio ou encore De Vulgaris Eloquentia. Nous parlerons de ses textes moins connus, ce sera demain avec Didier Ottaviani qui nous présentera plus largement quelques enjeux de l'œuvre dantesque. Mercredi, nous nous pencherons évidemment sur la Divine Comédie, ce sera avec Daniel Robert qui l'a traduite pour les éditions Actes Sud. Et enfin jeudi avec Jean-Pierre Ferrini, nous étudierons les diverses relectures de Dante à travers l'histoire comme celle par Mendelssohn, Beckett ou même par Philippe Solers. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de Dante Alighieri ou ce qu'on en sait, nous sommes en compagnie de Bruno Pinchard, doyen honoraire de la faculté de philosophie de l'université Jean Moulin Lyon 3 et président de la Société Dantesque de France. Il est l'auteur, entre autres, du livre Le bûcher de Béatrice aux éditions Aubier. Bienvenue à tous, voici la compagnie des œuvres.
Pour ton mieux, je pense et je dispose. Que tu me suives et je serai ton guide. Et je te tirerai d'ici vers un lieu éternel où tu entendras les cris désespérés. Tu verras les antiques esprits dolents qui chacun crie à la seconde mort. Et tu verras ceux qui sont contents dans le feu parce qu'ils espèrent venir un jour futur aux gens heureux. Et si tu veux ensuite monter vers eux, une âme se trouvera bien plus digne que moi. À elle, je te laisserai à mon départ.
La fin du chant inaugural de l'Enfer, lu par Guillaume Gallienne. Bonjour à vous, Bruno Pinchard.
Bonjour.
Alors, quand on dit d'une chose qu'elle est dantesque, on pense immédiatement à une atmosphère infernale. On ne pense pas tellement au paradis. Du coup, c'est presque un peu effrayant de vous avoir autour de cette table en tant que président de la Société Dantesque. Faut-il avoir peur, Bruno Pinchard ?
D'abord, oui. Ensuite, je ferai un déplacement. Vous voyez du feu et des menaces dans le dantesque. Le message que je pourrais apporter, c'est que Dante, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est plié. C'est un système extraordinairement intriqué. Et être dantologue, ou comme on dit en italien, dantista, c'est se prendre...
On peut dire dantiste en France, non ça
Non, on va éviter. C'est se prendre de passion pour une énigme. Mm-hmm. Qui comprend, bien sûr, sa part de feu.
C'est ça que vous faites à la Société Dantesque, alors?
Ah oui, on a un séminaire et on se réunit et on échange de la façon la plus aiguë possible. Et on fait aussi des lectura dantis, c'est-à-dire des exposés d'un chant de Divine Comédie. Et ceci date d'époque de Boccace, qui fut le premier à réaliser des lectura dantis.
Alors, il y a pas mal de personnes qui se sont penchées sur la vie de Dante. On va essayer de la raconter nous aussi aujourd'hui. On peut citer quand même Jacqueline Risset en 1995 qui a publié un livre pour raconter ce qu'on sait de sa biographie. Enrico Malato dernièrement en 2017 aux éditions des Belles Lettres. Mais en réalité, évidemment, à 700 ans de distance, on ne connaît pas très très bien la vie de Dante, Bruno Pinchard.
D'autant plus qu'on n'a aucun document, même pas une signature, même pas une note dans les marges d'un livre. Il y a des contrats qui nous restent, qui ont été faits par des gens de sa famille, en dans son nom, mais on n'a pas le contrat signé par lui. On travaille donc dans un système de réputation, d'écho, et on doit tirer une très large part de ce qu'on sait des œuvres, car c'est une œuvre immensément autobiographique. Ça n'est rien d'autre que une rétrospection de sa propre vie, construite jusqu'à l'infini, dans sa complexité, comme je le disais à l'instant.
Alors c'est autobiographique, et en même temps on n'a pas l'impression de lire une autobiographie.
Non, parce que ce sujet qui dit « moi » devient peu à peu, graduellement, le monde. Le monde qui essaye de se dire dans sa totalité. C'est donc un « moi » confronté à la tâche de dire tout. Mmh. Et comme on sait, on dit toujours la vérité, mais pas toute.
Alors Dante Alighieri, c'est un nom qui apparaît une fois sur les registres de la ville de Florence. Ce n'est pas Dante lui-même qui a écrit ce nom-là, puisqu'il y a une faute d'ailleurs dans ce nom. C'est un greffier qui transcrivait en 1302 la liste des citoyens condamnés à mort par le nouveau gouvernement des Guelfes Noirs, parce que Dante a été condamné à mort, même s'il n'a pas été ensuite, même si la sentence n'a pas été exécutée.
Alors Dante Alighieri naît d'une famille de petite aristocratie qui appartient à une tradition guelfe, c'est-à-dire de défense, au fond, d'une conduite religieuse de la politique et de la cité et de l'Italie entière.
Il y a les Guelfes et puis il y a les Gibelins.
Les Gibelins. Il commence donc comme Guelfes. Simplement, à cause d'un élan personnel en faveur de la justice particulièrement aigu, il préfère être un Guelfe blanc, c'est-à-dire un Guelfe qui défend les positions des couches populaires de Florence. Et puis, cette identité mêlée à des expériences de guerre, il a fait la guerre pour Florence et pour défendre le parti Guelfe. Peu à peu, il monte dans la hiérarchie de la cité à partir d'une inscription dans une corporation de médecins et surtout de pharmaciens. Et ce qui est assez étrange puisqu'il était d'abord formé à la rhétorique et aux lettres. Mais cette élévation le conduit à avoir une responsabilité majeure à la mairie de Florence. Donc il était prieur de Florence, un des six responsables de la conduite. Il ne semble pas qu'il ait eu d'ailleurs des charges majeures, mais il a participé à l'expulsion des Noirs, qui faisait un tollé et qui créait des incidents gravissimes dans les rues de Florence.
Des Noirs, vous voulez dire?
Et des Guelfes noirs, partagés, qui eux avaient une position bourgeoise.
Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau.
Non, alors certainement pas, c'est plutôt des emblèmes, c'est un monde d'emblèmes en noir et blanc, quasiment des boucliers templiers. Et nous nous retrouvons avec un Dante lettré, peut-être pharmacien, et enfin responsable des activités d'entretien de la ville, qui est soudain choisi pour aller auprès du pape pour défendre les intérêts de Florence. Et comme il va aller faire ce séjour à Rome pour avoir la responsabilité d'ambassadeur, il va être trompé par le pape qui va le faire attendre très longtemps, suffisamment de mois pour que la révolution se produise à Florence et que les Guelfes blancs perdent leur supériorité et soient remplacés par les Guelfes noirs. Mmh. Alors, Dante est condamné par étapes, peu à peu, d'abord à payer l'amende, ensuite il est accusé d'avoir volé de l'argent de l'État, et enfin il va être condamné à mort, et enfin au bûcher. C'est une suite de condamnations qui vont se poursuivre tout au long de sa vie et qui frapperont même ses enfants. Donc c'est une propagation d'une haine extraordinaire et qui caractérise cette œuvre, parce que cette œuvre elle est complexe, parce qu'elle est amoureuse, elle est héritière de l'amour courtois occitan et français, mais elle est haineuse aussi. Elle est traversée d'une violence, une violence inouïe. Et donc, il faut la composer dans ces deux extrêmes que sont l'amour et la haine.
Alors là, vous nous donnez des clés pour comprendre la Divine Comédie, mais on ne peut pas comprendre en lisant la Divine Comédie ce parcours-là de Dante. Tout est assez caché.
Mais comme vous disiez tout à l'heure, il a écrit d'autres œuvres et il y a des œuvres qui portent des traces autobiographiques plus fortes. Il y a ces lettres, par exemple, qui permettent de scander ses interventions amoureuses, politiques ou herméneutiques de sa propre œuvre. Il écrit des lettres pour commenter et apprendre apprendre, enseigner à lire sa propre œuvre. Et enfin, vous avez des poèmes d'amour qui sont encryptés, par exemple de supplications à Florence pour pouvoir revenir, ouais. ou de demandes de pardon pour pouvoir revenir.
Et puis, alors, pour connaître un peu la vie de Dante, on peut peut-être se référer au livre « La vie de Dante Alighieri » de Boccace. On va en parler, mais tout de suite un extrait lu par Michel Derville.
On ne peut passer sous silence l'exil injustement prononcé contre Dante Alighieri, homme très illustre, de sang noble, remarquable par sa science et par ses ouvrages, digne de louanges, d'honneur et de gloire. Mon intention n'est pas d'insister par des reproches mérités sur cette injustice déplorable, mais bien plutôt de la pallier le plus qu'il me sera possible. Quelque petit que je sois, en effet, je suis cependant citoyen de Florence et je me reconnais solidaire de sa réputation. En conséquence, ce que notre cité aurait dû faire de magnifique en l'honneur de son illustre citoyen, et pour qu'il ne soit pas dit qu'en toute chose nous nous écartions des anciens, je me suis résolu à le faire, non pas en lui élevant une statue ou un riche tombeau, de ces deux choses l'usage de l'une est perdu chez nous et mes moyens ne suffiraient pas à l'autre, mais avec mon humble plume, aimant mieux dans une telle entreprise être accusé de présomption que d'ingratitude.
De Dante par l'auteur du Decameron qui avait 8 ans au moment de la mort de Dante en 1321. Ce livre de Boccace, est-ce qu'il est un document pour connaître la vie de Dante?
Boccace est d'une dignité et d'une proximité avec Dante qui est absolument admirable. Il est au fond l'ami ou le fils qui porte la parole de Dante. Il faut l'opposer à Pétrarque qui fut, dans un talent invraisemblable à son tour, un homme d'envie et de rivalité avec Dante.
Donc, Boccace... On a là d'ailleurs un peu deux courants, d'un côté Pétrarque, de l'autre côté Dante, de filiation finalement de la littérature européenne presque.
Oui, mais c'est Pétrarque qui va l'emporter longtemps et pour nous donner d'ailleurs des œuvres d'une finesse inouïe. Mais Dante va revenir ensuite comme celui qui doit parler à notre histoire. En tout cas, Boccace a rendu des services remarquables. C'est de lui que nous savons qu'il avait une barbe, alors que quelques portraits que nous avons n'importent pas de barbe. C'est de lui qu'on sait qu'il avait une vie amoureuse débordante, alors que on peut le suivre quand il soutient son extrême vertu en toutes circonstances. C'est de lui
ça,
aussi.
C'est peut-être au début de sa vie seulement, peut-être.
Ah non, Boccace précise jusqu'à ses derniers jours.
Ah, et donc, c'est intéressant. Alors,
c'est une remarque comique.
On lit autrement la Divine Comédie avec cette information-là.
C'est une œuvre, si vous voulez, qui porte des contradictions tellement béantes. C'est le paradoxe d'une œuvre qui est ajointée comme un joyau et qui comporte des tensions d'opposition qui sont inexorables. Alors comment faire tenir une géométrie aussi contradictoire, ça c'est une des grandes énigmes. L'œuvre la plus solide et la plus contraire, vous voyez comment, un peu peut-être comme les arcs dans une élévation de pierre.
Donc Dante n'était pas vertueux alors?
Dante n'était ni vertueux ni calme dans la contestation des engagements politiques des autres. Dante était féroce, c'était un homme d'une vitalité qu'il a tellement célébré, non pas simplement à travers lui-même, mais à partir de ce qu'il appelle l'idéal de la noblesse, qu'il prétend que quand on est né avec une constellation stellaire qui s'élève à la perfection, on peut être un altro Dio incarnato, ça veut dire être un autre Dieu incarné. Mm-hmm. Vous comprenez qu'il a osé écrire ça. Vous vous rendez compte ce qui est important? Souvent, on commente un Dieu incarné, le mage hermétique. Non. Un autre, ça veut dire qu'il y en avait eu un avant. C'était tout juste et peut-être seulement Jésus-Christ. Il est exactement dans la figure de Spinoza qui, au fond, nous propose une forme d'intellection qui nous place dans l'esprit du Christ. Mm-hmm. Et en fait, une œuvre de raison et pas une œuvre de foi.
Donc est-ce qu'on se trompe quand on lit la Divine Comédie comme une œuvre de don à l'autre, une œuvre d'amour,
C'est un amour qui
d'amitié.
N'a aucun rapport avec le don à l'autre. C'est un amour d'aliénation avec l'autre. Vous voyez, ça c'est la tradition courtoise, la dame, dont les significations sont multiples bien sûr, cette dame à la fois
Béatrice.
Me transfigure, ou comme il dit, me fait transhumaniser, C'est là que vient apparaître cette idée extraordinaire du trasumanar dont nous portons nous encore en fait les traces aujourd'hui. Mais cette dame qui transhumanise vous piétine, vous broie, vous humilie et vous porte à la suffocation de la douleur. Donc il y a une maladie d'amour et toute l'idée de Dante c'est de transformer la maladie d'amour en un ajointement, comme je disais tout à l'heure, d'une œuvre totale. C'est une maladie qui se propage et qui transforme.
Mais cette œuvre, qui est une œuvre de foi aussi, comment est-elle interprétée par les chrétiens, par l'Église ?
Alors, tout d'abord, ça s'est passé extrêmement mal, puisqu'il a été considéré comme portant une doctrine politique scandaleuse, puisqu'on n'a pas fini son histoire politique. On peut pas toute la raconter, mais on va juste simplifier en disant que, une fois qu'il a été jeté hors des murs de Florence comme guelfe blanc, il a cherché à trouver l'appui de forces militaires et financières. C'était les Gibelins. Et il est devenu donc ce qu'on appelle le poète gibelin, quoique il explique lui-même dans la Divine Comédie que cet engagement n'a pas été totalement satisfaisant et qu'il a préféré fate parte a me stesso, je suis devenu à moi-même mon propre parti, une sorte de sombre solitude. Et donc ce gibelinisme l'a conduit à préférer cette fois-ci le clan impérial, c'est-à-dire ces maisons qui viennent de l'Allemagne du Sud et qui ont régné à partir de Frédéric Barberousse sur l'Italie entière et qui assuraient un projet d'universalisme au milieu de la multiplicité des communes italiennes.
Donc il est opportuniste alors.
Ah non, c'est une construction. Ça fait partie aussi de ses antagonismes, c'est-à-dire que il a porté au fond la fidélité papale des guelfes et ensuite par un jugement fondé sur le rapport entre le pape et l'empereur, il a dit que le destin de la vie humaine sur la terre était de mettre en œuvre une monarchie non pas italienne, même pas européenne, mais universelle. Mmh. Alors là, il a été à nouveau condamné à mort, ou surtout, on a brûlé ses livres. Donc, la papauté est dans une position de répression du savoir dantesque à partir des années 1310. Cependant, il y a eu des retours, et à partir du 19e siècle, considérant la crise moderniste, la portée des Lumières, le savoir critique se diffusant, l'Église catholique a trouvé refuge philosophiquement dans saint Thomas et chez Dante, dans l'humanité réelle, au fond l'humanité concrète que représentait Dante. Donc il y a eu un nouveau départ avec Léon XIII de la reconnaissance. Et aujourd'hui, le pape actuel a le projet de faire, sinon une encyclique, en tout cas une lettre apostolique sur Dante, comme Paul VI l'a fait. Et il y a à chaque fois la tentative de faire de Dante une nouvelle fédération pour la foi catholique. Mais ce qui est parfaitement légitime à la lettre des textes, sauf qu'il y a, comme on peut l'entendre, des textes contradictoires. Et il y a des positionnements chez Dante, non seulement parce qu'il met les papes en enfer, ce qui évidemment est déjà une difficulté de poids, mais il y a des tensions dans la conduite de l'esprit humain vers la vérité qui ne sont pas toutes tranchées en faveur de la foi. Mmh. Et c'est pourquoi on peut parler avec la même égalité, la même vérité d'un Dante gnostique et d'une épreuve gnostique. C'est pourquoi vous ne pourrez pas attendre de moi que je ferme le débat. Si vous voulez, mon idée, ce que je voudrais au fond marquer ou transmettre, c'est que c'est un soleil, ou plutôt un système solaire, dont le noyau est obscur. Il y a un noyau, il y a un feu, dont nous avons du mal à tirer la leçon. Vous parliez au début en ouverture de Virgile. Au fond, Virgile en a plus dit sur ce qu'il avait à faire que Dante. Et Dante, il a quelque chose de ténébreux, tout autant que de débordant de lumière, évidemment. Mais c'est quelque chose en noir et blanc, comme nous le disions tout d'abord.
Alors, il a été baptisé, Dante.
Dans ce fameux baptistère.
À l'époque où on baptisait, donc, une fois par an,
voilà,
tous les bébés de Florence. C'était le 26 mars 1266. Qu'est-ce qu'on sait donc exactement de cette enfance? Qu'est-ce qu'on sait, par exemple, de la famille dont il est issu?
Alors, d'abord, sur son baptême, il y a déjà une histoire compliquée, parce qu'il y a un vers étrange où il dit « Si vous ne me croyez pas que je suis véritablement de Florence, je vais vous donner une anecdote, ça c'est dans les vers, hein, une anecdote qui le prouve. Un jour, un enfant s'est noyé dans la vasque du baptême bel San Giovanni di Firenze, et il s'est tellement encastré dans la vasque que j'ai dû de mes mains briser la vasque. » Alors, c'est une anecdote qui est, on l'a cherché s'il y avait des traces de cette histoire d'un vase brisé, parce que vous voyez bien la notion de vase brisé qui apparaît ici. Absolument rien. On n'a rien trouvé qui corrobore cette information, mais comme Don Chuan détail est extrêmement juste, extrêmement précis, on peut le prendre très au sérieux. Et donc, on voit donc quelqu'un qui, à la fois, se fait introniser et reconnaître dans le baptistère, mais qui en même temps a cette tâche extraordinairement douloureuse de briser l'eau de son baptême et le marbre de son baptême. Et toute l'œuvre s'inscrit dans cette dualité, vous voyez. Donc, vous voyez, la beauté, quand vous retournerez à San Giovanni, de sentir ce trou de marbre n'existe plus, mais Dante y a brandi quelques marteaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça peut représenter. De violence aussi, hein, de violence. Mm-hmm. Et de l'enfant sauvé.
Et sur les parents, alors sur,
alors, ses parents, ben, c'était une assez curieuse famille. Le père était un usurier un peu douteux, semble-t-il. En tout cas, il est attaqué par un de ses amis, avec lui, il a une polémique, qui s'appelle Forese Donati, qui laisse entendre que son père faisait de l'argent avec n'importe quoi, et qui maintenait difficilement le clan Alighieri à Firenze. Et il avait sans doute une mère extraordinaire.
Est-ce que c'était des aristocrates, ou est-ce que c'était simplement une famille un peu aisée?
Oui, le mot aristocrate, je crois, ne convient pas, parce que ça supposerait un fief, ça supposerait... Non, ce sont des familles... au fond lombardes, qui vivent dans la ville et qui doivent s'habituer aux mœurs bourgeoises de la ville. Mais les mœurs bourgeoises de la ville sont aussi des mœurs guerrières, puisque vous savez qu'à Florence, on se bat de quartier à quartier. Donc ce sont des mœurs militaires. Mm-hmm. Donc ce sont des hommes, ils vivent au milieu des hommes de main, et ils vivent... C'est Sarajevo, Florence, hein, ne faites aucune illusion. Donc ils ont des hommes d'armes en permanence, il y a des gens qui reviennent blessés, il y a des actes abjects sur les corps, sur les propriétés, le feu est mis à tout instant, ça se passe comme ça, mm-hmm. dans Florence. En tout cas, cette maman, j'en dis juste un mot parce qu'elle a fait un rêve extraordinaire au moment de le mettre au monde. Elle a rêvé qu'elle avait engendré un paon dont la queue largement déployée stupéfierait le monde. Et elle est morte. C'est donc un enfant orphelin.
Alors le père est mort aussi assez vite.
Oui, assez vite.
En revanche, le grand-père est très important, il est très présent, il lui transmet beaucoup de choses.
C'est-à-dire que d'abord, il devient très vite chef de famille et avec des responsabilités...
Donc Dante, voilà, lui-même. Voilà.
Alors, je pense que vous faites allusion à Cacciaguida.
Exactement.
Oui, oui, mais c'est peu probable qu'il s'agisse d'un grand-père au sens de l'art d'être grand-père de Victor Hugo, peut-être plutôt un grand-oncle. En tout cas, c'est une figure tutélaire qui apporte à Dante ce qui, à la fois la vérification de sa noblesse de sang, et là la question du sang est fondamentale, parce que Dante va essayer de soutenir que le sang n'est pas l'axe nobiliaire, hein, l'axe nobiliaire ce sont les étoiles. Dante est un astrologue, Dante ne construit son œuvre, justement cette espèce de Concordia Discorse dont je parlais antérieurement, il l'a construit avec l'astrologie, et c'est au compas que son œuvre se fait. Son ancêtre lui donne la double accolade du sang et des croisades. Et des croisades, parce que si vous voulez, on pourrait dire que cette œuvre illustre le tournant de l'Occident qui avait cru trouver son destin à reconquérir le tombeau du Christ. Saint Jean d'Acre tombe, Dante rencontre Béatrice la même année. Et donc... commence une autre forme d'expérience religieuse en Occident, où la conquête devient non plus externe et tournée vers Jérusalem, mais interne et sur l'urgence de convertir le cœur de la chrétienté, c'est-à-dire Rome.
On voit qu'il y a absolument tout
dans
cette œuvre.
Inépuisable, oui.
Bruno Pinchard, on parlait du rapport au père. Et le rapport au père, il est présent aussi dans La Divine Comédie, par l'intermédiaire de Virgile, qui est donc ce personnage adjuvant, qui est aussi évidemment Virgile le poète, mais qui est cet adjuvant et ce père pour le personnage de Dante. Je vous propose d'écouter, lu par Guillaume Gallienne, le moment où Dante franchit le mur du feu grâce à Virgile, c'est dans le chant 27 du Purgatoire.
L'ange de Dieu se tenait hors de la flamme sur la rive et chantait « Beati mundo corde » d'une voix bien plus vive que la nôtre. Puis, nul ne va plus loin sans que le feu le morde, âme sainte, entrez en lui, et au chant de là-bas ne soyez pas sourde, nous dit-il, quand nous fûmes plus près. Aussi je devins pareil à l'entendre à celui qui est mis dans la fosse. Je tendis en avant les mains jointes, regardant le feu et imaginant fort les corps humains que j'avais vus en flammes. Mes bons guides se tournèrent vers moi et Virgile me dit « Mon fils, on peut ici trouver le tourment, mais non la mort. Souviens-toi, souviens-toi, et si je t'ai guidé sain et sauf sur le dos de Gérion, que ferais-je à présent plus près de Dieu ? Tiens pour certain que si tu demeurais plus de 1000 ans dans le sein de ces flammes, elles ne pourront te faire chauve d'un cheveu. Laisse-la maintenant, laisse toute crainte, tourne-toi par ici et viens. Entre avec sûreté, et moi cloué et contre ma conscience, quand il me vit rester dur et figé, il dit un peu troublé, « Vois donc, mon fils. » Entre Béatrice et toi, il y a ce mur. Comme au nom de Thisbé, Pyram ouvrit les yeux sur le point de mourir et la regarda, tandis que le mûrier devenait vermeil. Ainsi, ma dureté tout amolie, je regardais mon sage guide en entendant le nom qui bourgeonne toujours dans ma pensée. Il secoua la tête et dit « Comment ? Voulons-nous rester de ce côté ?» Puis il sourit. Comme on fait à l'enfant conquis par une pomme. Ensuite, il se mit dans le feu devant moi. Quand je fus dedans, je me serais jeté dans du verre bouillant pour me rafraîchir, tant l'incendie y était sans mesure. Mon doux père, pour me réconforter, allait en me parlant toujours de Béatrice, disant « Il me semble déjà voir ses yeux ».
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
On est là vraiment, Bruno Pinchard, dans une sorte de rite initiatique que Virgile, en figure paternelle, permet à Dante de passer quand il traverse ce mur de feu. Le rapport parent-enfant-père fils dans la Divine Comédie.
Manifestement, il ne suffisait pas à Dante d'avoir un seul père. Et tout à l'heure, on a parlé de Cacciaguida. Maintenant,
il a été déçu aussi par son propre père.
Voilà, c'est ça. Il a un père au fond séminal. Il a un père ancestral et avec Virgile, il a le père du poème qui le porte, hein, le plus grand des plus grands, peut-être le plus grand poète de l'humanité, qui est à ses côtés et dont il partage une forme de langue commune. Cet italien qui est un latin abattardi, mais qui en même temps est la reviviscence possible de la gloire de l'Italie. Virgile nous donne lieu, figure dans cet instant, une figure merveilleusement protectrice qui lui enseigne quoi ? Le regard de Béatrice. Il ne marche dans le feu que parce qu'il suit les yeux. Et alors quand il va la voir finalement, parce qu'il va vaincre cette épreuve, et que il va retrouver cette fois-ci un autre feu, mais le feu de l'amour ancien qu'il avait pour Béatrice, il va se retourner vers Virgile à ses côtés, et il va l'appeler Dolcissimo Patre, hein, père de grande douceur. Et il va pleurer parce qu'il voit la femme aimée, mais il a perdu son père. Parce que Virgile n'avait pas le droit d'aller aussi loin. Il est un esprit sublime de l'Antiquité, mais il n'entre pas dans le domaine de la révélation. Et c'était le moment où il était prévu qu'il quitte son disciple. Donc vous vous rendez compte, il est éperdu du père quand il voit la femme. Et il y a aussi là une idée italienne, de la tradition italienne extraordinaire, la terreur de la donna, et clan de ce qu'aujourd'hui on appelle patriarcal, mais aussi solidarité des frères, hein, face à l'absence qui devient présence d'un feu, d'un tout autre poids.
C'est complètement psychanalytique, non ?
Je pense que Freud, qui savait tout, savait beaucoup de choses, et sur Shakespeare bien évidemment, mais beaucoup de choses sur Dante aussi.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire encore de Florence ? Vous avez expliqué, en faisant la comparaison avec le Sarajevo de la guerre, que c'était un endroit où on se battait beaucoup, mais c'est aussi un endroit où il y avait un boom économique absolument incroyable. C'est vraiment les années fastes de Florence que Dante connaît.
Oui, elles seront encore plus face à l'époque des Médicis. Ce qu'on peut dire, c'est le moment où commence le capitalisme. Et je voudrais un peu insister sur cette question, parce que une des immenses grandeurs de Dante, c'est que c'est la première parole exacte sur l'événement qui caractérise à jamais, au fond, les horizons dont nous sommes les héritiers. Comment garder une noblesse d'intellect si capitalisme il y a?
Et déjà cette question du temps
dedans. Absolument, il y a une pensée de l'argent. Est-ce que l'argent permet simplement d'acheter des denrées, ou l'argent croit par lui-même et se donne une puissance autonome? Est-ce que l'argent peut décider du sort humain? Et comment on parle quand c'est l'argent qui règne?
Jouis, Florence. Puisque tu es si grande que sur terre et sur mer tu bats des ailes, et que ton nom se répand par l'enfer. Chez les voleurs, j'ai rencontré bien 5 de tes notables, ceux dont j'ai honte, et toi, tu n'y gagnes pas grand honneur. Mais si vers l'aube le rêve est véridique, tu apprendras d'ici à peu de temps tout le mal que Prato et bien d'autres te souhaitent. S'il était déjà fait, il ne serait que temps. Et qu'il se fasse, puisqu'il doit se faire. Car plus je vieillirai, plus j'en aurai de peine.
Cet extrait du chant 26 de l'Enfer, lu par François Chaumette pour illustrer vos propos, Bruno Pinchard. Florence, c'est la ville du péché, la ville de l'argent dans la Divine Comédie. Il faut punir Florence.
Florence, c'est le diable, regardez. Tes ailes se déploient, Florence, et ton nom résonne dans l'enfer. Mais qui porte des ailes en enfer? C'est le diable lui-même. Donc Florence, elle... l'analogie préventive au face-à-face avec le diable, qui sera l'achèvement de l'enfer. Donc, je pense qu'il y a l'idée que la puissance financière, que ces espèces de banques que sont les maisons de Florence, ce système du crédit qui va, au fond, fausser la valeur de l'argent, de même que... En France, Philippe le Bel va modifier la valeur de la monnaie du royaume de France. On entre dans une sorte de perte de ce qu'on appellerait, au fond, les talons or. Mmh. Et cette perte des talons or, c'est pas simplement une mesure, bien sûr, économique, mais c'est aussi une mesure spirituelle. Et il y a l'Occident s'essaie à une déviance qui va être prolifique. Pas une sorte de décrochement des analogies de la nature pour entrer dans un monde de constructivisme. Et constructivisme dont le premier effet, c'est de raisonner dans l'enfer.
Il faut rappeler que Florence, c'est une ville-État qu'elle avait créée en 1252, la première monnaie internationale, qui était le florin d'or, avec aucune effigie du pape ou de l'empereur, mais seulement une fleur de lys, avec cette idée que finalement l'argent vaut pour lui-même, qu'on peut presque se détacher de à la fois le pape et à la fois l'empire. Donc Florence, c'est le banquier de l'Europe, c'est la ville-État un petit peu démoniaque. Heureusement, les Dantes ont aussi un pied à la campagne, et c'est important la campagne pour Dante Alighieri, parce que il y a un côté bucolique aussi chez lui, Bruno Pinchard.
Montagnard.
Pas que la ville.
Montagnard. Il y a quelque chose d'alpestre, de il y a de la paroi, il y a de l'ascension chez Dante en permanence, parce que il y a de l'ascension quand il descend dans l'enfer, et puis il y a de l'ascension quand il va remonter sous la terre dans la montagne du purgatoire. Donc il y a une valeur du haut et du bas qui appartient à cette catégorie. Et quant à la douceur de la campagne, elle est évidemment l'écho des bucoliques de Virgile, mais ajoutez surtout l'écoulement de l'eau. Il y a une douceur de l'eau, il y a une transparence, il y a une quête de la transparence. Plus, vous voyez, les rivières de l'enfer sont sanglantes, ce sont des lieux où s'écoule le pu et les excréments et le sang, et plus vous montez, plus l'eau est transparente. Il y a l'eau de la mer qui est déjà d'un bleu merveilleux quand vous êtes aux antipodes, et puis quand vous arrivez justement auprès des yeux de Béatrice, des degrés de transparence qui sont justement plus transparentes même que les eaux du baptême.
Et là, est-ce qu'on peut continuer à faire l'analogie entre la vie et l'œuvre, et dire que le fait que la famille de Dante ait des terres, une petite ferme que probablement il a été aussi dans ses jardins plantés d'oliviers, d'arbres fruitiers, tout cela se retrouve dans l'œuvre, selon vous?
C'est une œuvre qui, derrière des structures massives qui ressemblent au fond au terme de Caracalla à Rome, si vous voulez, a des délicatesses à la fois d'enfant, des regards à la de jeune Rimbaud à Charleville. Et il y a une sorte de sensibilité aiguisée, bien sûr aux animaux, aux fleurs, aux plantes. Et il y a un élément déterminant, c'est la météorologie. Parce que les événements, si vous voulez, métaphysiques, se passent toujours dans des contextes météorologiques. Et il y a des degrés de nuages, il y a des degrés d'empilement des orages, il y a une dynamique cosmique qui n'est vaincue que par une force plus haute dont j'ai déjà parlé, ce sont les étoiles. Les étoiles, c'est encore plus pur que l'eau pure d'un baptême, plus pur que celui de Florence.
Mais alors ce qui est pur, c'est donc cette délicatesse d'enfant que vous écoutez, que vous évoquez, Bruno Pinchard, et cette délicatesse d'enfant, c'est probablement le souvenir de Béatrice rencontrée à 9 ans, tous deux d'ailleurs, avaient 9 ans, nouvel extrait de La vie de Dante Alighieri de Boccace, lu par Michel Derville.
C'était l'usage dans notre cité, parmi les hommes et les dames, quand arrivait la douce saison du printemps, de se livrer à des fêtes, chacun avec sa société distincte. Suivant cette habitude, Folco Portinari, entre autres, citoyen recommandable, avait, le 1er de mai, rassemblé ses voisins dans sa propre maison pour festoyer. Parmi les convives se trouvait le susdit Alighieri, qu'avait accompagné, comme ont coutume de le faire les enfants avec leur père, surtout aux fêtes, notre Dante, à peine âgé de 9 ans, et qui se mit à jouer avec les autres enfants de son âge qui étaient à la maison. Il y avait là, entre autres, la fille de Folco, appelée Bice, laquelle ne dépassait pas sa 8e année, très gracieuse, gente et plaisante en ses atours, belle de visage et apportant dans son parler plus de gravité que son jeune âge n'en réclamait. Dante la regarda à plusieurs reprises, avec tant d'affection que, tout enfant qu'il fût, il la reçut dans son esprit de telle façon que jamais aucun plaisir ultérieur n'en put effacer la belle image. Sans s'arrêter aux incidents puérils qui caractérisent l'enfance, cet amour non seulement persista, mais il s'accrut tellement que Dante n'avait pas de plus grand désir, de consolation plus grande que de voir celle qui en était l'objet. Cette passion lui fut, dans un âge plus avancé, l'occasion très souvent douloureuse des plus cuisants soupirs et de larmes amères, ainsi qu'il le dévoile dans une partie de sa Vita Nova.
La compagnie des heures sur France Culture. Alors Béatrice, c'est évidemment un grand personnage de la Divine Comédie. Qui est-elle dans la vraie vie de Dante, Bruno Pinchard, cette petite fille qui devient ensuite une jeune fille?
Je n'ai pas découvert le secret de Béatrice.
Ça reste un mystère alors.
Vous, évidemment. Il y a effectivement une jeune femme qui porte ce nom, qui s'est mariée, qui est morte probablement en couche.
Là, il y a des documents qui...
Ah oui, oui, ça, on sait absolument quand elle s'est mariée et je crois pouvoir dire qu'elle est née, elle est décédée en 1295, si mes souvenirs sont bons. Et elle a traversé au fond la vie à Florence d'une façon très très brève.
26 ans.
Voilà, 26 ans. Maintenant, elle est un point d'attraction pour un nombre de sentiments, de connaissances et de tensions politiques tellement inouïes que lui donner un visage, c'est comme si vous me demandiez qui est Isolde ou qui est Brunhilde. C'est quelque chose d'inépuisable, c'est une sorte de dévoration du monde à partir du pouvoir des yeux et d'ailleurs de la bouche, parce que Dante explique bien que le pouvoir exact d'une femme porte sur la connexion entre ses yeux et sa bouche. Ses yeux, ce sont ses savoirs, ses démonstrations, ses sagesses, et sa bouche, ce sont ses persuasions, ses intensités. Et il y a un moment extraordinaire quand il la revoit, elle veut bien lui montrer ses yeux, mais ne veut pas lui montrer sa bouche. Et ce sont les cortèges d'anges et d'âmes favorables qui sont autour d'elle, qui la supplient de dévoiler sa bouche pour son amant. Ce que finalement, elle accepte de faire. Bouche qui sera tellement convaincante qu'en réalité, elle sera d'une dureté inouïe avec celui qui a traversé l'enfer, c'est-à-dire littéralement l'hémisphère sud, enfin l'hémisphère nord, l'hémisphère sud par l'intérieur de la Terre, qui a remonté sur le sommet du purgatoire, et elle le traînera dans l'humiliation. Parce que il n'a pas conduit sa vie avec la rectitude qu'elle pouvait attendre de lui.
Donc, alors là, il se passe terrifiante. Il ne se passe rien entre Dante et Béatrice. Ils se rencontrent une première fois à 9 ans, ils se revoient à 18 ans,
oui.
Mais c'est un amour platonique.
Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. Au fond, vous savez, quand on vient du Paris de Lacan, ces distinctions n'ont pas sens. Ce qu'on peut dire, c'est que elle a joué au fond le rôle du maître mort ou de l'inconscient qui parle.
Ou peut-être le rôle d'ange personnel, comme le pensait en tous les cas Jacqueline Risset.
Il y a quelqu'un qui a senti ce rapport de Dante et Béatrice plus fortement que tous les autres, c'est Botticelli. Botticelli a illustré toute la Divine Comédie, et quand il illustre l'enfer et le purgatoire, il y a un monde fou. Il y a Dante, Virgile, il y a tous les gens qu'il voit, qu'ils interrogent. Il y en a quelquefois plusieurs scènes sur le même dessin, de façon cinématographique. Et quand on arrive au paradis, il n'y a plus que Dante et Béatrice avec des points de feu, des cercles, des flammes, et toujours il y a cette sorte de ces deux corps, de ces deux visages qui sont aimantés l'un par l'autre, qui se regardent l'un l'autre. Il y a cette sorte de façon de tourner toujours l'un vers l'autre, l'un par l'autre, vers autre chose, mais toujours dans cette sorte de dialogue incessant et muet. Et ça c'est tout à fait merveilleux.
Pas oublier qu'il y a aussi une femme officielle dans la vie de Dante, Bruno Pinchard, elle s'appelle Gemma Donati. Est-ce qu'elle a un intérêt aussi dans l'histoire? Est-ce qu'on la retrouve dans la Divine Comédie?
Oui, elle a un grand intérêt, Gemma, parce qu'elle a fait trois, peut-être quatre, n'est pas tout à fait sûr. Il y a plusieurs enfants qui ne sont pas tout à fait identifiés. En tout cas, trois enfants à coup sûr qui ont été perdu par Dante à partir donc de son exil en 1301, et qui seront retrouvés, tous reviendront rejoindre leur père et travailleront à ses côtés. C'est même un de ses fils ou ses deux fils qui ont retrouvé les derniers chants de la comédie qui manquaient pour que l'œuvre soit complète. Sa jeune fille entrera dans le couvent de Ravenne et portera évidemment le nom de Béatrice. C'est vous dire à quel point il y a une labilité familiale et une reprise de la vie réelle dans l'œuvre construite. Mais je voulais au fond vous dire, il y a un secret du mariage chez Dante. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui récapitule toutes les formes de mariage. Il y a le mariage de la fécondité, et qui est celui qui conduit à l'amour et à la belle famille, au fond, autour de Gemma. Il y a un amour de rapte, un amour au fond de d'illumination. Bourreau joue un rôle fondamental qui est l'imagination. Dante dit d'emblée qu'il s'est marié avec Béatrice dès qu'il l'a vue la première fois, et que donc il s'agit bien d'un mariage. Et ensuite il va se marier avec la philosophie, et d'ailleurs la philosophie est elle-même mariée avec Dieu. Vous voyez tous les mariages.
Alors, et Béatrice est un peu une allégorie justement de la philosophie.
Non, non, ça c'est une chose qu'il faut bien distinguer. Il y a deux femmes. Béatrice porte d'autres valeurs que la philosophie au sens strict, puisque c'est parce qu'elle est morte que Dante se console avec une donna gentile, c'est-à-dire une femme noble ou gentille, qui lui donne accès à la philosophie à laquelle il va se marier. Donc, Béatrice, si vous voulez, porte un témoignage qui tient au-delà de la philosophie, qui peut être d'ailleurs l'éthique, car Dante place l'éthique au-dessus de la métaphysique, mais qui peut être aussi la foi, si on entend parfois un processus de la volonté capable d'embrasser toutes les expériences que nous sommes en train de décrire. Et on peut dire aussi, c'est la vie de Dieu, car là on est tellement proche de Maître Eckhart, c'est-à-dire que l'épousaille avec Dieu me fait au fond douter du point d'appui du sujet. Le sujet est-il Dieu lui-même? Et le sujet n'est-il même pas antérieur à Dieu lui-même? Vous voyez que le Dieu de la transcendance connaît un rival singulier avec cette poésie-là.
Donc c'est en pensant tout de même à Béatrice qu'il écrit à 18 ans son premier poème. C'est aussi à 18 ans qu'il rencontre un nom qu'il faut introduire à présent, c'est celui du poète Guido Cavalcanti, qui était donc l'ami, le grand ami de Dante. Avec lui, il forme une espèce de petit clan artistique, peut-être une espèce d'avant-garde poétique. Est-ce qu'on peut dire cela, Bruno Pinchard?
Ce sont des artistes consommés. On peut rêver d'avoir eu pour ami Guido Cavalcanti. Au fond, Dante, c'est celui qui a eu pour ami Guido Cavalcanti et Boccaccio. Ami peut-être idéal pour le second, mais qui a connu des fraternités d'un ordre exceptionnel. Cavalcanti est un très très grand poète. Alors le grand débat est le suivant: Cavalcanti est un épicurien, est un matérialiste, et il pense que l'amour est une malédiction. Et Dante reprend cette position et essaie de le retourner au nom de la maladie d'amour, d'une maladie dont je disais tout à l'heure qualifiante, et en fait un miracle et une libération. Donc leur rivalité, c'est d'associer deux formes de jugement sur l'amour. Certains disent, comme Enrico Malato, que toute l'œuvre n'est rien qu'un débat avec les traces des poèmes exceptionnels de Cavalcanti. On peut penser que Virgile joue aussi un rôle de pondération majeur, et que Thomas d'Aquin aussi. Mais il reste que Cavalcanti, c'est cet esprit qui a anticipé Dante, qui était lui-même un guelfe noir, que Dante a exilé de sa main quand il était prieur de Florence. Mmh. Et puis ça donnera lieu à la rencontre du père de Cavalcanti aux enfers.
Dante a choisi très vite d'être guelfe blanc, et il ne faut pas oublier non plus, lorsqu'on pense à Dante, lorsqu'on parle de Dante, que Dante a été aussi un personnage de gouvernement. Et non seulement il a été engagé politiquement, la politique a été pour lui une passion extrêmement forte, mais Dante a été au gouvernement pendant 3 mois. Il était l'un des prieurs Et c'est à ce moment-là qu'il a pris des responsabilités très grandes, et en particulier celle qui a été pour lui d'ailleurs une source de souffrance, qui a été le fait qu'il ait exilé son meilleur ami, celui qu'il appelle son premier ami, Guido Cavalcanti. Et donc il y a cette sorte de présence chez Dante de la politique qui n'est pas uniquement quelque chose d'adventiste, ce n'est pas un des aspects de sa vie parmi d'autres, c'est réellement un élément fondamental.
Il faut rajouter peut-être, Jacqueline Risset, que lorsqu'il fait revenir Cavalcanti est atteint de la fièvre des marées et il meurt. Il y a donc une sanction qui est la mort, pour l'acte politique.
Il a été cause de la mort de son meilleur ami. Et donc, il y a chez Dante une perception de la gravité des actes politiques. Ce n'est pas un intellectuel qui, de temps en temps, s'occupe à la politique.
Jacqueline Risset, de nouveau, qui évoquait l'importance de la politique pour Dante au micro d'Hubert Juin. En 1986, il fait donc Dante exiler Cavalcanti. Qu'est-ce que ça peut nous indiquer sur sa personnalité, sur sa dureté, sur aussi ce que ça a dû engendrer comme culpabilité et en quoi est-ce qu'on peut le retrouver peut-être dans la Divine Comédie?
Vous savez, ce qu'il reprochait le plus avec Cavalcanti, c'était pas d'être matérialiste, mais de ne pas aimer assez Virgile. Et là, on a, en tout cas, il y a un vers dont l'interprétation est délicate qui semble vouloir dire cela. Et donc, on pourrait dire ceci, qu'il faut bien méditer. Cavalcanti est un esprit naturaliste, rationaliste et mélancolique qui a donné, au fond, la vérité de son temps, mais qui n'a pas su se relier aux mystères antiques, qui n'avait pas la culture latine suffisamment longue et profonde pour réveiller toute l'Italie mystérique dont Dante est l'héritier. Donc Dante, c'est le croisement de l'intelligence, je dirais, contemporaine de Cavalcanti et d'une mémoire millénaire des initiations et des mystères qui fait de Dante à la fois le contemporain capital, mais en même temps l'esprit long, du temps long, du bassin méditerranéen dans son entier, qui inclut l'Égypte, qui inclut bien sûr Israël, qui inclut la Grèce et qui inclut toutes les navigations circumméditerranéennes. C'est ça qui a manqué à Cavalcanti pour être aussi grand que Dante, si ce n'est bien sûr les années de vie, puisque sa vie était bien plus courte.
Alors les funérailles de Dante, elles arrivent à l'âge de 56 ans, je crois.
56, oui.
56 ans.
Le 14 septembre 2021, on approche, hein, vous remarquez.
Oui, et alors, il y a un truc un petit peu étrange, c'est que il est donc enterré à Ravenne. On va essayer plus tard de le ramener à Florence, et quand on va ouvrir le tombeau, il n'y a plus de dépouilles de Dante. Alors c'est très étrange, c'est presque l'histoire du Christ, Bruno Pinchard.
Oui, mais le Christ avait des mains très habiles et très actives, car ce sont les franciscains de Ravenne, dont le monastère jouxte la tombe de Dante, qui, découvrant que sous la pression de Michel-Ange et de d'autres grands artistes florentins, le pape avait décidé de faire revenir le corps de Dante à Florence, et Michel-Ange avait promis de sculpter le tombeau.
C'est quelques années après sa mort? C'est combien de temps à peu près après sa mort?
Le retour à la demande?
Oui.
Non, vous voyez, Michel-Ange, c'est dans les années 1530. Plus tardivement encore, l'année m'échappe à cet instant, mais ce que je peux dire, c'est que, sachant cela, un moine a creusé dans la paroi du monastère, s'est introduit dans le cercueil par le caractère latéral, le mur latéral, et a volé les os de Dante qu'il a caché dans le mur. Et je vous raconte la suite après.
Ah ben vous ne pourrez pas, parce que c'est déjà le moment de nous quitter.
On les retrouvera au 19e siècle en réparant le mur. On ne les retrouvera qu'au 19e siècle en retrouvant le mur.
Merci beaucoup Bruno Pinchard. Je rappelle que vous êtes doyen honoraire de la faculté de philo de l'université Jean Moulin, Lyon 3. Tout de suite on retrouve la chronique, c'est en compagnie des revues.
La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une chronique proposée aujourd'hui par Philippe Roger, directeur de la revue Critique. Bonjour à vous Philippe.
Bonjour Mathieu.
Et c'est Jacques Rancière qui est l'invité de la dernière livraison de Critique. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois, me semble-t-il.
Vous avez raison, il y a longtemps qu'à Critique, nous tenons l'œuvre de Jacques Rancière pour non seulement importante, mais singulière, stimulante. Nous lui avons d'ailleurs consacré un numéro spécial déjà, intitulé « Autour de Jacques Rancière », mais c'était en 1997. Il était donc grand temps d'y revenir, parce qu'avec Rancière, il faut suivre. D'une certaine manière, c'est toujours le même regard, un regard aigu qui est, je dirais, tendu vers les objets plutôt que fixé sur eux. Mais les objets changent, lui-même se déplace, de nouvelles perspectives apparaissent. C'est un petit peu comme dans les jardins anglais auxquels il vient de consacrer un livre. Et il y a une règle d'or, hein, que le promeneur ne puisse jamais voir à la fois le but de la promenade, que ce soit un kiosque, un belvédère, enfin peu importe, et le chemin qui y mène. Alors on pourrait dire la même chose des livres de Rancière. Il nous montre tantôt le but de l'excursion, c'est un beau livre, c'est toujours une belle excursion, disait Diderot, hein. Tantôt le chemin, la méthode, si vous voulez, qui y mène, et jamais les deux à la fois. C'est en quoi, je pense, qu'on peut dire qu'il est le plus romanesque de nos philosophes.
Oui, et puis ce philosophe romanesque qui s'intéresse de plus en plus aux œuvres littéraires, cinématographiques ou même photographiques.
Oui, il me semble, et on sait que le partage du sensible est une notion centrale chez lui. Elle noue la politique avec le mot partage et l'art avec l'adjectif sensible, hein, qui renvoie à l'esthésis, à l'esthétique. Bon, dans ce numéro, nous rendons compte de 6 de ses derniers livres parus dans les seules 3 dernières années. Littérature, images, jardin. Alors voilà sur quoi il porte, mais je dirais plutôt vers quoi il se porte. Et surtout, c'est toujours politiquement qu'il s'y porte. Rancière peut évoquer les gilets jaunes. Il est sans doute encore plus politique lorsqu'il parle de Flaubert ou de Virginia Woolf. Et cela tient à sa définition même de la littérature. Parce que pour lui, la littérature, ce n'est pas toute forme d'expression écrite. Je cite, c'est l'émergence d'un art d'écrire où n'importe quelle vie, même la plus ordinaire, est digne d'être écrite. C'est une réponse qu'il fait à Fabienne Brugère dans l'entretien qu'il nous a accordé. Je dirais que la vraie politique de Flaubert, c'est le personnage d'Emma Bovary à ses yeux. J'ajouterais volontiers Félicité dans Un cœur simple, un des plus beaux textes de la langue française. Dorque Zabounian, qui a coordonné notre numéro, a intitulé son article « Le pari de Jacques Rancière ». Et on peut voir en effet le parcours de Jacques Rancière depuis les livres des années 80, « La nuit des prolétaires »,« Le maître ignorant » jusqu'au plus récent, dont nous rendons compte comme un enchaînement rigoureux de paris risqués. Paris sur l'hétérodoxie politique dans les années 80 et Paris sur la littérature de plus en plus en tant qu'elle est ce qu'il appelle un mouvement anti-hiérarchique qu'il suit de Flaubert à Virginia Woolf, de Mallarmé à Sebald. C'est un mouvement par lequel, écrit Rancière, les mots se font chair et détournent des vies de leur destination.
Oui, je crois qu'on va devoir s'arrêter là, Philippe Roger, malheureusement, parce que la connexion est extrêmement mauvaise. Merci beaucoup, je ne saurais que trop conseiller nos auditeurs de soutenir la revue Critique qui souffre un petit peu depuis le confinement en se la procurant, soit en librairie, soit sur kern.info. Encore merci Philippe Roger. C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée par Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Didier Pinault, Romain Billet et Baptiste Lénard. Demain, nous parlerons de l'œuvre toujours dantesque et de quelques-uns des grands thèmes de la Divine Comédie. Ce sera avec Didier Ottaviani.